Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my God, Radio X.
J'ai quasiment eu une hésitation avant d'arriver en ondes. On est bel et bien mercredi. Bienvenue dans Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Accompagné pour une avant-dernière soirée cette semaine de M. Christian Page. Salut Christian.
Salut Camille.
Ça va trop vite, le temps passe trop vite. Je suis en train de me perdre dans le spatio-temporel au dernier jour du mois d'août.
Oui.
On parle ce soir de la thématique des théories du complot et le sujet m'a fortement intéressé. Premièrement, je vais le prononcer comme il faut.
Tu savais pas ce que c'était, hein?
Pas du tout. les auturiers ce soir.
Les auturiers.
Est-ce un métier? C'est quoi?
Non, en fait, l'idée de l'émission ce soir m'est venue suite à l'émission de la semaine dernière où on avait parlé de la carte de Vinland qui s'est révélée finalement être fausse.
Oui.
Et qui est souvent utilisée par toutes sortes de réhistoriens pour donner vie à toutes sortes d'histoires ou d'hypothèses un peu fantaisistes. Et des gens ont écrit en me disant « Oui, mais pourtant, on a quand même des preuves que des visiteurs européens seraient venus en Amérique bien avant Colomb, etc. » Il faut quand même le dire, le fait que la carte de Vinland soit fausse ne force pas à dire que jamais personne n'est venu en Amérique avant Christophe Colomb. Là. C'est donc qu'il faut faire la part des choses. Mais la carte de Vinland ne peut pas être utilisée comme un argument pour démontrer cette soi-disant présence européenne. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'en parler parce que dans les livres d'histoire, lorsque l'on évoque cette présence européenne ou d'une société non autochtone d'Amérique du Nord, on utilise généralement un mot qui a été inventé par Farley Mowat, qui est un écrivain canadien, grand défenseur de l'écologie, qui est décédé il y a quelques années, qui était véritablement un personnage dans l'histoire de la littérature du 20e siècle au Canada. Et Farley Mowat avait écrit un ouvrage qui s'intitulait justement « Les auturiers ». Et Mowat avait développé l'idée que, bien avant l'arrivée des Européens par Christophe Colomb en Amérique du Nord, une société, lui il les appelle les Albans, c'est le nom qu'il leur donne, ces gens-là seraient venus chassés d'Europe par les Vikings qui dominaient les territoires à l'époque. Ces gens-là seraient venus, auraient traversé l'océan Atlantique, auraient débarqué en Amérique du Nord et au fil du temps se seraient métissés avec les sociétés autochtones, leur apportant un certain savoir, de certaines connaissances européennes. Et c'est ce qui pourrait expliquer la présence en Amérique du Nord de soi-disant preuves, éléments archéologiques qui supporteraient l'idée de cette présence européenne bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. Ben justement, on va en parler de cette hypothèse des auturiers. Et Farley Mowat parlait des Albans, mais d'autres auteurs ont parlé des Vikings, d'autres auteurs ont parlé des Celtes. J'ai évoqué à quelques reprises, là, je pense que c'est la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, les Templiers, souvent évoqué dans l'émission La Malédiction de d'Oak Island. On se prépare d'ailleurs une émission avec un spécialiste de l'Université de la Sorbonne sur les Templiers. On va essayer de séparer le mythe de la réalité parce que tu vas voir que c'est beaucoup moins fantastique que ce qu'on nous raconte à la télévision, cette histoire des Templiers. Mais bref, okay. Je me suis dit, on va regarder cette semaine, suite à l'émission de la semaine dernière, est-ce qu'on a des preuves d'une présence entre guillemets européenne ou étrangère en Amérique du Nord avant l'arrivée de Christophe Colomb? J'entends déjà dire oui, il y a Lance aux Meadows à Terre-Neuve, qui est un petit village d'origine viking. C'est tout à fait vrai. Donc ça, c'est une preuve d'une présence entre guillemets européenne en Amérique du Nord aux alentours de l'an 1000. Donc on est quand même à peu près 5 siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb. Il faut quand même toutefois, puis je veux pas trop embarquer là-dedans parce qu'on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, mais il faut quand même se dire que lorsque l'on dit que quelqu'un a découvert un pays, et je sais pour avoir côtoyé les gens des milieux académiques en histoire à l'université, ces gens-là disaient, faut faire attention parce que on va accepter en histoire, les historiens, les archéologues vont accepter le titre de découvreur ou donner le titre de découvreur à un individu ou à une communauté dans la mesure où ce contact-là a eu une importance ou une implication, une transformation auprès des sociétés. Si c'est un, on est arrivé, on s'est donné la main, puis on est reparti chacun de notre côté, ben ça a pas eu un gros impact sur les cultures en place.
Ça ferait même pas un dixième de page.
Voilà. Donc, est-ce que il est possible, hein, entre guillemets, il est possible que les Vikings aient rencontré des gens des territoires du Nord, des Inuits ou autres? Mais on n'a pas vu dans la culture inuite apparaître des objets ou des éléments de culture empruntés aux Vikings. Donc, si les Vikings ont rencontré des Inuits, visiblement, ces contacts-là ont été beaucoup trop subtils pour laisser des empreintes dans l'histoire. Donc, on ne dira pas les Vikings ont découvert l'Amérique. C'est pas vrai. Les Vikings ont eu une présence en Amérique, mais il faut vraiment attendre la présence de Christophe Colomb qui va arriver en Amérique en 1492. D'ailleurs, il mettra peu de gens savent ça, là, mais Christophe Colomb n'a jamais mis les pieds sur le continent. Hein. Il s'est arrêté à l'île d'Hispaniola, qui est en fait aujourd'hui l'île sur laquelle se trouve la République dominicaine et Haïti. Donc, cette île-là, à l'époque, s'appelait Hispaniola. Et Christophe Colomb n'a jamais été au-delà de cette île-là. Hein. Donc, il est arrivé là, il s'est installé, il a installé une communauté, il est retourné en Espagne, tout ça, mais il n'a jamais mis le pied sur le continent nord-américain. Mais il savait à ce moment-là qui était sur une terre nouvelle. Les gens qui l'ont suivi dans les expéditions subséquentes, eux, ont débarqué au Mexique avec les conséquences que l'on connaît. Donc, d'abord, des métissages, un échange culturel. Donc, on voit que la rencontre a un impact sur les sociétés de ce moment-là. Donc, toute la culture du Mexique, on se limite d'abord à l'arrivée de Colomb en Amérique centrale. Et là, je ne te parle pas de l'Amérique du Sud avec les conquistadors espagnols et Francisco Pizarro, là. Oui. Mais on parle essentiellement de l'arrivée de Colomb et ensuite les Espagnols qui vont arriver en Amérique centrale avec Cortés et bien sûr les massacres qui vont se faire. La civilisation aztèque sera pratiquement décimée par les conquistadors espagnols. Mais que ce soit pour le bon ou le mauvais, on voit ici un impact entre les deux cultures, malheureusement très négatif pour les sociétés autochtones en place. Mais là, il n'y a aucun doute qu'il y a eu un contact et ces contacts ont laissé une trace dans l'histoire indélébile. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour que les historiens, les archéologues disent, ben voilà, Christophe Colomb, c'est le découvreur de l'Amérique. Mais ça ne veut pas dire que des gens avant lui n'étaient pas venus en Amérique. Et les historiens, contrairement dans les théories du complot, les amateurs de théories un peu fantastiques, genre les Templiers sont venus ici, ont tendance à diaboliser les vrais historiens ou les vrais archéologues. Hein, ça fait toujours mieux. Ah oui, les archéologues veulent pas reconnaître ça, ou les historiens ne veulent pas reconnaître ça, parce que ça les obligerait à réécrire les livres d'histoire, parce qu'ils défendent des dogmes. C'est tout à fait faux. Les historiens sont ouverts à toutes ces possibilités-là, mais il faut d'abord apporter des preuves qui soient convaincantes. Et ils ont aussi leur définition de qu'est-ce qu'un découvreur. Hein? Un découvreur comme Colomb va laisser une marque. Les Vikings n'ont pas laissé une grande marque sur les peuples inuits, s'ils en ont rencontré, bien sûr. Donc, il y a quand même une dynamique qu'il faut respecter, une sémantique qu'il faut respecter, mais les historiens ne sont pas fermés à cette idée-là en aucun temps. Mais la question qu'ils posent, c'est « Mais où sont les preuves que ces sociétés européennes sont venues en Amérique du Nord? » Et on va en parler. Et il y a même une petite anecdote que je vais te raconter qui implique l'Université Laval, donc l'Université Laval à Québec, à Sainte-Foy, qui est impliquée justement dans un débat concernant la présence d'une société indo-européenne en Amérique. J'allais dire des siècles, mais en fait des milliers d'années avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. On va voir que ces preuves-là sont beaucoup plus ténues que ce que les réhistoriens avancent. Et il n'y a rien là-dedans qui est suffisamment convaincant pour forcer les historiens ou les archéologues à réouvrir les livres d'histoire et à réécrire la grande aventure de l'humanité, de l'Amérique du Nord, ou même des Amériques au pluriel. Donc, on va regarder ça. C'est les Auturiers, c'était une espèce de nom parapluie proposé par par Farley Moats, mais d'autres ont développé des théories semblables, les Vikings, les Celtes, bon, les Allemands, comme pour ce qui est de Farley Moats. Donc ça, on va regarder ça en deuxième partie d'émission. C'est fascinant comme sujet. Puis probablement qu'il y a même des petits lieux touristiques qui se sont développés autour de ça, et je serais pas étonné qu'il y ait des auditeurs de Radio X qui en aient visité quelques-uns de ces sites touristiques, soi-disant la preuve que des peuples celtiques ou européens ou indo-européens soient venus en Amérique bien avant l'arrivée de Christophe Colomb.
Ah ben ça pique ma curiosité. J'ai hâte de voir. Premièrement, on commence toujours avec l'actualité. On a quelques points, puis tant qu'à tomber dans des lieux touristiques, des endroits insolites, tu voulais parler de la tombe du roi Arthur.
En fait, c'est pas la tombe du roi Arthur, c'est une tombe qui est liée au roi Arthur.
Okay.
Donc, on se trouve ici, là, on se trouve dans la Golden Valley. Ça se trouve à Wyatt Valley, dans le Herefordshire, en Angleterre. Et on a un ensemble de pierres, des styles dolmen et menhir. Hein, je vous renvoie à vos lectures d'Astérix. Donc, ces espèces de pierres qui ressemblent un peu à des œufs étirés, là, et qu'on voit par exemple à Stonehenge, hein, qui est un lieu touristique très connu à travers le monde, là, un lieu mythique même très connu. Donc, on a un ensemble de pierres et que les gens localement appelaient les pierres du roi Arthur. On va-tu s'en faire des émissions, ma belle Camille, hein? On se fera à un moment donné une émission sur le roi Arthur. Qui était-il? A-t-il existé? A-t-on des preuves archéologiques? Qu'en est-il des chevaliers de la table ronde qui accompagnaient le roi Arthur? Et ces chevaliers se sont-ils lancés dans une espèce de quête pour retrouver la coupe qui aurait servi lors de la dernière scène, hein, la quête du Graal? Donc, on se fera une émission là-dessus. C'est tout à fait fascinant. Puis c'est tellement fascinant que cela a même inspiré un épisode de la saga des Indiana Jones. En rappelons-nous, le troisième épisode de la saga, c'est Indiana Jones et la dernière croisade, où il va retrouver le Graal et il va même côtoyer un chevalier de la table ronde qui avait côtoyé Arthur. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu ce troisième volet des aventures d'Indiana Jones, c'est à voir. Donc, Indiana Jones et la dernière croisade, mais tout ça nous ramène un peu à cette histoire du roi Arthur. Donc, dans le cas où de ce monument dont je te parle, des pierres, des dolmens, des menhirs, on disait voilà, c'est les pierres du roi Arthur, mais il faut quand même savoir que c'est un site qui date de la préhistoire et qui est vieux d'à peu près 5000 ans. Alors, ce sont des pierres qui ont été placées là par une société de la préhistoire, mais il y a 5000 ans. Il faut quand même se dire que si le roi Arthur, puis je veux pas te vendre de punch, mais si le roi Arthur a existé, on situe davantage son existence autour du 4e ou du 5e siècle. Donc, le site dont je te parle, 5000 ans, il est beaucoup trop ancien pour avoir eu un lien quelconque avec le roi Arthur. Mais on aime, hein, faut savoir qu'en dans cette région-là du sud de l'Angleterre, le roi Arthur est un peu partout et son empreinte est marquée sur plein de monuments. On dit, ah oui, ça c'était la cour du roi Arthur, c'est la montagne du roi Arthur, la colline du roi Arthur, l'île du roi Arthur. Donc, c'est un peu une étiquette locale qu'on applique à peu près à n'importe quoi. Donc, ces pierres étaient associées au roi Arthur, même si elles étaient trop anciennes. Et là, on s'est dit, tiens, voilà, on va... Puis en fait, l'association qu'on faisait avec le roi Arthur, on dit qu'à cet endroit-là précis, hein, parce que, évidemment, les locaux savent que ces pierres-là sont beaucoup plus anciennes que l'existence du roi Arthur, si roi Arthur il y a eu. Mais on dit qu'à cet endroit-là, le roi Arthur aurait terrassé un géant avec son épée magique Excalibur.
Ah, la fameuse épée.
Hein, l'épée que la Dame du Lac lui avait remise, qui n'est pas, contrairement, parce que les gens mélangent la pierre retirée de la roche, n'était pas Excalibur. C'est une pierre une épée qui est sortie de la pierre, selon la légende, qui le désignait comme le futur roi d'Angleterre, mais cette épée tirée de la roche, à un moment donné, lors d'une bataille, s'est brisée. Et là, lorsqu'il est arrivé près de Dranmore Lake, une main, la Dame du Lac, est sortie et elle lui a tendu Excalibur. Donc, ce n'est pas la même épée, là. Les gens ont tendance à confondre ça, mais là, Excalibur, c'est effectivement l'épée magique du roi Arthur, celle qui va lui apporter tant de victoires. Et à la mort du roi Arthur, Hey, là, je suis en train de te faire mon émission sur le roi Arthur. On va s'escraper ça, là. Bref, un chevalier est retourné au lac et a relancé à nouveau l'épée dans le lac pour la redonner à la dame du lac. Mais ça, c'est dans les légendes arthuriennes. Mais on nous dit qu'à cet endroit où il y avait des pierres, le roi Arthur aurait terrassé un géant avec son épée Excalibur. Et là, voilà qu'un groupe d'archéologues de l'Université de Cardiff et de Manchester ont décidé de procéder à des fouilles, des fouilles archéologiques sur le site. Est-ce que ce ne sont simplement que des pierres qui ont été placées là, ou est-ce que ces pierres-là servaient à autre chose? Et à leur grande surprise, dès les premiers coups de pioche, ils ont découvert des escaliers qui descendaient, qui s'enfonçaient dans le sol, et là, ils ont mis des vestiges de ce qui semble être un espèce de tumulus où on aurait déposé des corps. Donc, il semble que les pierres en question aient été un endroit où on a simplement mis à jour les escaliers et les tumulus. On n'est pas encore entré à l'intérieur.
Mais c'était un marqueur un peu dans le spatio-temporel pour dire, gars, c'est ici, creusé là ou quoi?
Voilà. Donc, au moment où on se parle, les archéologues pensent que c'est comme si on avait mis un marqueur en disant, cet endroit est sacré.
Okay.
Et parce qu'il y a cet aspect sacré, on a l'impression avec la découverte, tout ça annonce qu'il pourrait y avoir des tombes. On aurait pu procéder à des inhumations à cet endroit-là. Jusqu'à maintenant, les archéologues ont trouvé des poteries, des morceaux de silex, des pointes de flèches en silex, et qu'on croit qu'elles ont été déposées à titre d'offrande. Donc, au cours des prochaines semaines, on va poursuivre les recherches, mais on ne serait pas étonné de découvrir à cet endroit-là des restes humains démontrant que l'endroit aurait servi de sépulture comme étant une espèce de lieu magique.
C'est ce que je souhaite avec toutes les trouvailles qu'on va faire. C'est pas pour rentrer dans le politique, là, mais avec le tramway à Québec, il va y avoir beaucoup de creusages puis de fouilles archéologiques. Puis j'aimerais ça qu'on arrive avec une découverte du genre. Ça serait extraordinaire. Passons de...
Oui, absolument. Québec a une histoire excessivement riche. Et à un moment donné, il ne faut pas se le cacher. Si on regarde l'histoire de Québec, là, vraiment sa période la plus dynamique, c'est le 17e siècle.
Oui.
Mais après ça, dans les siècles et les générations qui ont suivi, les siècles qui ont suivi, on se foutait un peu de l'histoire. Donc, on construisait en palier par-dessus ce qui était déjà là. On faisait table rase des bâtiments qui étaient là, puis on construisait par-dessus sans trop se préoccuper de conserver le patrimoine.
Oui.
Aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient de la protection du patrimoine et c'est à espérer, comme tu dis, sans entrer dans le politique, oui ou non, un tramway, un troisième lien, peu importe, mais si on décide de faire des fouilles, peut-être qu'on va découvrir des trésors qui sont sous nos pieds. Hein, quand tu marches dans le Vieux-Québec, tu te dis, qu'est-ce que j'ai, moi, en dessous de mes pieds? Est-ce qu'il y a un autre Fort Saint-Louis de caché quelque part en dessous de Québec?
Ou le tombeau de Champlain.
Le tombeau de Champlain, justement, qu'on a beaucoup cherché. À un moment donné, je sais qu'on avait un archéologue qui est décédé maintenant. Le nom est inoubliable, hein, puisqu'il s'appelait René Lévesque, hein, le même nom.
Oui.
Un homonyme de l'ancien premier ministre du Québec. Et René Lévesque s'est beaucoup consacré à la recherche du tombeau de Champlain à partir de cartes et de cadastres de l'époque. Effectivement, il y a une controverse autour de Champlain. On ne sait pas trop où il a été enterré. Certaines histoires disent qu'il aurait été ramené en France et inhumé en France. D'autres prétendent qu'il aurait été inhumé sur des terres à Québec, tout près de des rues Buade et du Trésor, là, pour les gens qui se situent dans le Vieux-Québec. Donc, c'est surtout là qu'on a mené des recherches archéologiques. Et à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, tu étais peut-être trop jeune, mais dans les années 80, à un moment donné, on a eu un moment d'attente, hein, parce qu'on avait trouvé des cercueils en plomb, deux cercueils en plomb, et on croyait que l'un d'entre eux pouvait peut-être être celui de Champlain. Et puis finalement, quand on a ouvert les cercueils, c'est pour découvrir qu'il s'agissait d'ecclésiastiques importants qui avaient marqué l'histoire religieuse du Fort Saint-Louis aux alentours du 17e, 18e siècle. mais Champlain n'était pas là. Donc, et après, puis c'est vrai que ce René Lévesque, cet archéologue René Lévesque, n'avait pas, c'était un archéologue amateur. Et ça, c'est souvent un peu, puis il faisait un travail excellent. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai fait des entrevues avec lui. C'était un homme qui était excessivement consciencieux, très, très, très méticuleux dans son travail. Mais néanmoins, comme ce n'est pas un archéologue officiel reconnu, ben, il y avait évidemment une espèce de friction, une résistance, entre lui et les archéologues officiels qui s'interrogeaient sur dans quelle mesure est-il vraiment autorisé à faire des fouilles ici et là? Est-ce qu'il respecte les protocoles? Donc, il y avait toute une histoire un peu de, c'est un peu malheureux, mais une histoire un peu politique autour de ça. Et, aujourd'hui, René Lévesque est décédé et il n'y a pas de nouvelles recherches qui ont été entreprises dans le but de retrouver le tombeau de Champlain, qui est, faut bien le dire, qui est l'objet d'une très, très grande controverse sur le plan historique. Mais qui sait, comme tu dis, on peut espérer se croiser les doigts que de nouvelles fouilles sur le terrain de l'ancien Québec, de l'ancienne ville de Québec, pourraient permettre de découvrir des ruines, des éléments archéologiques intéressant et qui sait, peut-être le tombeau de Champlain.
Ça amène une petite fébrilité en effet.
Oui, absolument.
On a également dans l'actualité, on passe de tombeau au lieu de naissance. Est-ce qu'on a retrouvé le lieu de naissance de Saint-Pierre?
Ça, c'est très intéressant parce que il faut savoir que l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'humanité est à la fois l'un des personnages les plus obscurs et j'ai nommé Jésus de Nazareth. Je n'entrerai pas dans le détail. La pire émission que j'ai faite à Radio X a été une émission sur « Y a-t-il eu un Jésus historique? »
Ouh là là!
Donc, je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'il y a visiblement, il y avait des auditeurs qui n'arrivent pas à faire la différence entre religion et histoire. Et d'un autre, et ça, ben évidemment, il y a des gens qui prennent les textes religieux à la lettre, hein, comme on dit littéral, et d'autres pour qui, dès qu'on parle de religion, ça devient presque un peu épidermique.
Donc, là, ça a donné naissance. Beau petit cocktail, mon Christ.
Oh, que j'ai eu un petit cocktail. Et j'ai dit, on ne refera pas ça. Mais néanmoins, il est vrai que dans le cas de Jésus de Nazareth, c'est un personnage très important. Ses enseignements, s'il a existé, hein, je le dis bien, on n'a pas une certitude absolue de l'existence de Jésus de Nazareth, mais le consensus historique, c'est qu'il y a eu un Jésus historique. Donc, je te dirais 80-90% de la communauté des historiens et des archéologues croient en l'existence d'un Jésus historique. Il était peut-être pas semblable à celui qu'on nous fait le portrait dans les évangiles, mais on s'entend pour dire qu'il y a probablement eu un rabbin important qui a suscité énormément d'intérêt et dont le discours a été excessivement choquant pour le Sanhédrin qui, eux, contrôlaient un peu la religion de cette époque. Et là, on arrive, il y a ce nouveau rabbi, Jésus de Nazareth, qui, quand on lit les évangiles, qui commence à dire, bon, on peut manger du poisson le vendredi, il n'y a pas de problème. Les femmes peuvent participer aux réunions où on enseigne la parole de Dieu. Et, crime par-dessus tout, on acceptait les hommes non circoncis. Alors, c'était comme épouvantable de penser qu'on pouvait accepter ça. Là, c'était comme le je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'était le bout du bout.
Ouais, c'était le bout. Eh bon, je la donne.
Donc, ce Jésus de Nazareth, autant c'est un personnage important, hein, ses enseignements vont donner naissance à la religion la plus importante de l'histoire de l'humanité et qui est encore aujourd'hui la religion la plus populaire au monde, le christianisme. Et pourtant, on sait peu de choses à son sujet. Hein, comme je l'ai mentionné, on ignore même, il y a même une controverse autour de son existence historique. A-t-il réellement existé? Et s'il a existé, a-t-il été exécuté sous Pilate, comme le racontent les évangiles? Est-il né à Bethléem? A-t-il grandi à Nazareth? Il y a plein de choses qu'on ignore à propos de lui. On n'a à peu près que les textes religieux qui nous parlent du personnage et les quelques autres textes que l'on dit laïques, donc des textes non religieux. On en a quand même quelques-uns qui évoquent les chrétiens ou qui évoquent Jésus. Et ces textes-là sont très controversés parce que des historiens s'interrogent souvent à dire « Ouais, mais c'est pas sûr que le texte original était comme ça, il a pu être parce qu'on le sait ». dans le haut Moyen-Âge, on avait que des moines qui faisaient des copies. Et est-ce que les moines, pareil, je te donne un exemple, il y a un document qu'on appelle l'histoire du peuple juif qui a été écrit par un type qui s'appelle Flavius Joseph. Et on parle d'un texte ici écrit aux alentours de l'an 50 après Jésus-Christ. Et Flavius Joseph, dans le texte, dans son histoire du peuple juif, l'histoire des juifs, il dit, je suis allé à Jérusalem et j'ai rencontré des gens, des chrétiens, et ces gens-là se réclamaient de Jésus, un personnage extraordinaire qui faisait de très belles choses et qui a été exécuté sous Pilate. Bon, je te le cite à peu près de mémoire. Alors là, on se dit, ben voilà, on a un document historique non religieux qui nous parle directement de Jésus, nommément de Jésus, et on ajoute un détail historique, hein, il aurait été exécuté sous Pilate. Mais il faut savoir que ce texte-là, on n'a pas l'original. Donc, ce que l'on a entre les mains, c'est une copie d'une copie d'une copie. Le texte le plus ancien qu'on a est une copie qui date à peu près du 4e siècle. Donc, rien ne nous dit qu'au fil des siècles qui ont entre le moment où, entre guillemets, Jésus existait et le moment où Flavius Joseph écrit ce texte et la version que l'on a entre nos mains, ben, il est possible que les copistes aient rajouté quelques petits détails. Ça se peut que Flavius Joseph n'ait pas pipé un seul mot à propos de Jésus, mais on lui a fait dire ça parce que c'était bien de le mettre dans un document. Donc, on appelle ça des textes apocryphes, donc des textes qui ont peut-être été retouchés par des auteurs successifs. Et donc, lorsque l'on parle de Jésus, on a trois ou quatre textes de ce type-là, et les historiens disent, attention, il faut prendre ça avec un grain de sel, c'est pas sûr que les textes n'ont pas quelque part été modifiés. Donc, on a, somme toute, très peu de choses à propos de Jésus. En revanche, lorsque l'on fait des recherches archéologiques, et on comprend le pourquoi, on a tellement peu de choses sur Jésus que dès qu'on fait des recherches archéologiques et que ces recherches archéologiques viennent donner du poids aux textes religieux, aux évangiles, évidemment, c'est tout à fait extraordinaire et c'est accueilli par les historiens et les archéologues avec une espèce de, je dirais pas un soulagement, mais une espèce de curiosité qui vient donner foi à une partie, pas forcément à tout, mais parce qu'il faut se rappeler que les textes des évangiles, c'est pas des textes historiques, hein, on n'est pas là pour nous raconter l'histoire, on est là pour nous raconter une histoire, celle de Jésus et de ses enseignements. Donc, on fait un peu les coins ronds, puis on réinvente la réalité comme elle nous plaît. Mais les historiens, quand ils font des recherches, des découvertes archéologiques comme celle dont je vais te parler, bien évidemment, ça vient donner du poids à une certaine valeur historique au texte des évangiles. Et la découverte dont je te parle, ce sont des fouilles archéologiques qui sont menées en ce moment au lac Tibériade. Et on fait des recherches sur un site où on a construit une église. Et selon une tradition, on disait que cette église avait été construite sur la maison qu'occupaient à l'époque Pierre et André, les deux frères, et qui ont été parmi les premiers disciples du Christ. Donc, en faisant des fouilles archéologiques, non seulement on a trouvé les fondations de cette première église qui date du 1er siècle, mais en dessous de cette structure de l'église, on a trouvé d'autres structures qui montrent qu'il y avait bel et bien un quartier d'habitation qui était là. Il y avait donc des maisons sur lesquelles on a construit une église. Et ça vient rejoindre cette tradition religieuse qui voulait qu'on ait construit une église sur la maison de Pierre. Et là, ce qui est encore plus extraordinaire, les archéologues viennent de mettre à jour à un endroit du plancher toute une série de mosaïques et avec des écritures et les deux écrits, les deux mentions qu'on a, il y en a une qui dit Constantinos, le serviteur du Messie. Et le deuxième message dit « chef des messagers célestes ». Donc déjà ici, on mentionne le Messie, on voit bien qu'on est au centre d'une construction qui parle du christianisme naissant, mais l'expression « chef des messagers célestes », c'était une expression qui était consacrée essentiellement à Pierre. Pierre, qui était cet apôtre de Jésus, à qui Jésus disait « Pierre, tu seras cette pierre sur laquelle je construirai mon église ». Donc, Pierre qui va devenir grosso modo, le premier pape, et là, on dit que ses ossements seraient à Rome, mais bon, on dit bien des choses sur les reliques de Rome, et je sais de quoi je parle. Mais okay. Bref, on dit ça, mais on comprend, donc, on a ce personnage très important. Et là, cette découverte vient donner un peu de l'eau au moulin à ceux qui prétendent que les évangiles ne sont pas que des textes catéchisés, qu'ils s'inspirent d'éléments historiques. Et c'est pas la première fois, d'ailleurs, hein. Il y a quelques décennies, 20 ou 30 ans, on avait trouvé un ossuaire qui portait le nom de Caïphe. Caïphe étant le grand chef du Sanhédrin. Donc, ça montre que lorsqu'on nous parle de Jésus et que son discours avait choqué Caïphe, le chef du Sanhédrin, ben, comme on a retrouvé l'ossuaire de Caïphe, on voit ici qu'on a une partie de l'histoire qui est vraie. On se rappelle également que, bon, on se rappelle pas tous, là. On n'est pas tous, je pense que c'est pas tout le monde qui lit tous les soirs les évangiles. Mais dans les évangiles, il y a un moment donné où Jésus va guérir un aveugle et lui dit oui. « Va te laver à la piscine de Siloé ». Et on a trouvé le bassin de Siloé à Jérusalem. Donc, qui était un grand bassin d'eau, et ça, on a découvert ça il y a quelques années. Donc, lorsque Jésus parle et guérit cet aveugle, il fait réellement référence à un lieu archéologique, historique, qui existait au centre de Jérusalem. Donc, ces découvertes archéologiques sans accréditer de manière certaine l'existence de Jésus vient apporter des petits éléments historiques et archéologiques qui appuient en partie les textes des évangiles. Donc tu comprends, cette découverte, elle est très importante parce que d'une part, elle vient confirmer une tradition religieuse, celle où on disait qu'on avait construit une église sur l'ancienne maison de Pierre et André, donc deux apôtres du Christ, et là, la découverte de cette mosaïque qui fait ouvertement référence à Pierre, et je te rappelle que c'est une construction qui date du 1er siècle, donc qui est de l'époque à peu près. Là. Donc, c'est les gens qui ont construit cette église-là ont côtoyé Pierre ou ont côtoyé des gens qui ont connu Pierre. Donc, on est tout proche des événements qui nous sont rapportés dans les évangiles. Donc, c'est une découverte très importante. Il faut savoir, pour y être allé à quelques reprises, toute cette région-là de la Galilée, hein, Jérusalem, la mer Morte, le lac de Tibériane, il y a énormément de recherches archéologiques qui se font dans cette région-là. On passe d'un chantier archéologique à un autre. C'est vraiment fascinant. Moi, j'y ai été. J'ai passé des semaines à accompagner des archéologues sur le terrain. Donc oui, j'étais bien en Indiana Jones avec mon petit balai, là, puis j'y poussais des poteries là, qui avaient été trouvées. C'était fabuleux. Et m'imprégner et baigner dans cet univers-là m'a permis de développer une connaissance, ben, pas encyclopédique, mais une très grande connaissance de ce milieu-là et du contexte religieux qui a marqué le début du christianisme là, au 1er siècle. Donc, ça a été fabuleux. Et cette découverte, ben, évidemment, lorsque je l'ai lue, ça me fait sourire parce que j'aurais aimé être au nombre des archéologues qui ont déterré cette mosaïque. Mais bon, je suis quand même très heureux de voir, encore une fois, qu'on a un récit et on a une preuve archéologique, un élément archéologique qui vient appuyer certains textes des évangiles. Mais encore une fois, il faut toujours se rappeler, lorsque l'on parle des évangiles, que ce sont non pas des textes historiques, mais ce sont des textes catéchisés qui ont été écrits dans le but de nous faire, qu'on nous livre la connaissance ou l'impression qu'on avait de cette foi chrétienne qui s'installait à ce moment-là.
Voilà. Et je te ramène une phrase que tu aimes bien répéter. Ça peut peut-être être basé sur une histoire vraie, la Bible, mais une histoire vraie à combien de pourcents?
On le sait pas. les preuves sont manquantes. Mais on sait, par exemple, il y a toutes sortes d'éléments qui sont empruntés. Par exemple, lorsque Jésus va ressusciter le fils de la veuve, on sait que ce miracle-là, si on accepte qu'il y a eu des miracles, mais on sait que ce miracle-là avait été déjà produit par Jésus est un thaumaturge. Hein, c'est quelqu'un qui fait des miracles. Et à l'époque de Jésus, les thaumaturges étaient légion. Il y en avait un peu partout. Les gens qui avaient la réputation de faire des miracles. Jésus se distinguait pas vraiment des autres. Là. Il faisait des miracles, puis plein d'autres faisaient des miracles.
Okay. Il y avait fait la bulle, les cathos.
Oui, c'est ça, parce qu'on s'imagine. Alors, Jésus était... Non. Il y avait plein de gens qui avaient la réputation de faire des miracles. Et le plus important à l'époque de Jésus était un type qui s'appelait Apollonius de Tyane. Et il avait d'ailleurs été chassé de Rome parce qu'il avait ressuscité un enfant. Oh. Donc, on l'avait chassé de Rome à cause de ça. Et donc, ce miracle, il était antérieur à celui de Jésus qui ressuscite le fils de la veuve.
Mais et qui a marché sur l'eau, Christian?
Alors,
je fais des blagues.
mais dans le cas de Jésus, le miracle du fils de la veuve, ben, les historiens sont assez d'avis que ce miracle-là a été volé à Apollonius de Tyane.
Okay.
Mais tu sais, c'est pas important. L'important du texte, ce n'est pas de dire est-ce que ce miracle-là, en particulier, il est vrai. L'importance du texte, c'est de dire Jésus est plus qu'un homme. Et ses réalisations transcendent ce que les humains peuvent faire. Donc, c'est davantage dans le contexte plus général qu'il faut le voir, plutôt que de s'arrêter spécifiquement au miracle. Mais il y a eu du vol de miracles, et comme ça, c'était légion à cette époque-là.
Ah, intéressant. Mais merci, Christian. On va faire une pause. Je regarde le temps aller. On va s'en garder juste assez pour notre sujet principal de ce soir, les hauturiers. Restez là, on revient dans quelques minutes, ici même sur Radio X.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour pour la deuxième partie de Radio X-Files. Le sujet de ce soir, c'est la théorie de la première civilisation étrangère en Amérique du Nord, Christian, les hauturiers.
Les auteurs se sont penchés sur cette question. Y a-t-il eu des sociétés qui sont venues en Amérique du Nord avant l'arrivée de Christophe Colomb? Donc, on le sait maintenant, c'est bien établi. On a découvert ça dans les années 60. Hein. La présence, au milieu des années 1960, on a découvert des structures dans le nord de Terre-Neuve qui va devenir éventuellement le petit village de Lance aux Meadows qui a été construit aux alentours de l'an 1000 par les Vikings, et on sait que pendant à peu près 200 ans, l'endroit n'était pas habité continuellement, là. C'était pas 365 jours par année, mais c'était un peu comme un poste de pêche où, de manière plus ou moins périodique, des groupes de Vikings venaient s'installer, probablement pour la chasse ou la pêche durant les périodes les plus chaudes de l'année, avant de retourner en Islande ou dans le nord de l'Europe, où les Vikings étaient très, très étendus. Donc, à partir de 1965, là, avec la découverte de Lance aux Meadows, il n'y avait plus de doute. Les Vikings étaient venus en Amérique du Nord aux alentours de l'an 1000, donc à peu près 5 siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb. Mais y a-t-il eu d'autres sociétés qui sont venues? Et là, on arrive à toutes sortes d'hypothèses, plus ou moins défendables. Celle des hauturiers est celle qui a le plus fait jaser parce qu'elle a circulé pendant de nombreuses années. C'est l'auteur et environnementaliste Farley Moat, qui est décédé en 2014, qui est un monument là, dans l'histoire de la culture canadienne, et qui lui avait proposé cette idée-là en disant, ben voilà, je pense à travers des vestiges, à travers ses contacts aussi avec des sociétés autochtones, des Premières Nations, il en est arrivé à la conclusion qu'il y avait dû y avoir un métissage ou des rencontres, hein, parce que beaucoup de légendes des Premières Nations évoquent des hommes blancs, évoquent des grands navires, bon, évoquent toutes sortes d'éléments qui sont assez propres aux sociétés européennes. Donc, Farley Moat dit, ben voilà, est-ce que il imagine un peuple, les Albans, sans leur donner une origine précise, mais il les situe comme étant un peuple du nord de l'Europe, probablement des peuples celtiques seraient venus, chassés par, poussés hors de leur pays littéralement par les Vikings qui conquéraient tous les territoires à l'époque. Ils seraient venus en Amérique, auraient rencontrer les Autochtones, les Premières Nations, et en particulier les peuples inuits du nord de l'Amérique du Nord, et il y aurait eu métissage, et éventuellement, le peuple, les Albans, c'est le nom que leur donne Farley Moat, éventuellement, les Albans auraient disparu complètement métissés dans les sociétés autochtones. Mais malheureusement, l'ADN est venu briser ce beau rêve-là de Farley Moat. Parce que aujourd'hui, on a des échantillonnages ADN des peuples d'Amérique du Nord, à peu près de toutes les Premières Nations, qui nous permet un peu de retracer le tableau par quel endroit ils sont passés et quelle société a rencontré telle autre société. On parle toujours de peuples des Premières Nations, lesquelles de ces sociétés-là se sont rencontrées et ils ont une signature ADN indéniable. Or, quand on regarde la signature ADN des peuples inuits, Il n'y a rien là-dedans qui laisse croire qu'ils aient eu quelque contact que ce soit, et encore moins du métissage, ah, avec des sociétés européennes ou indo-européennes. Donc, l'image ou le scénario imaginé par Farley Moats avec ses fameux Albans et ses auturiers, comme il les appelait, ben, a été détruit par les preuves ADN. Mais il n'est pas le seul à avoir proposé l'hypothèse que des peuples seraient venus circuler un peu en Amérique du Nord. On a, il y a quelques années, en 1995, on a un type qui s'appelle Napoléon Martin, un Québécois qui a écrit « Les Vikings dans le Saint-Laurent » en l'an 1005. Donc, on est à peu près à la même époque où va être érigé ou être construit le village de Lance-aux-Meadows à Terre-Neuve. Et Napoléon Martin dit, ben voilà, les Vikings ne se sont pas contentés que de visiter Terre-Neuve, mais ils sont descendus à travers l'estuaire du Saint-Laurent, puis ils seraient même descendus peut-être jusqu'au Grand Lac. Il faut dire que quand on regarde son ouvrage à M. Martin, il utilise la fameuse carte de Vinland dont on a parlé la semaine dernière et on sait que cette carte, elle est fausse. Ah. Mais bon, pour le bénéfice de M. Martin, il faut quand même, on va lui pardonner, son ouvrage a été écrit en 1995 et à cette époque, même s'il y avait une grande controverse autour de la carte de Vinland, un historien ou un archéologue n'aurait pas commis cette erreur-là. À partir du moment où le document il est controversé, on l'utiliserait certainement pas pour développer un scénario. Mais Napoléon Martin est un passionné d'histoire, mais pas un archéologue. Il va utiliser la carte de Vinland pour donner vie à son scénario des Vikings dans l'estuaire du Saint-Laurent. Malheureusement, la carte de Vinland est fausse et les preuves que présente M. Martin quant à la présence de ces Vikings dans le fleuve Saint-Laurent, ben elles sont peu convaincante. Une pierre taillée à gauche ou à droite, ben, c'est des peuples autochtones, les Premières Nations qui vivaient dans cette région-là auraient pu très, très bien faire ces mêmes constructions en pierre, sans pour autant nécessiter l'intervention d'un peuple européen. D'ailleurs, il faut quand même le mentionner, je fais un peu un aparté, là, mais c'est une façon un peu raciste que l'on a de toujours imaginer que les peuples autochtones étaient des imbéciles. On voit ça, par exemple, dans la série « Nos ancêtres, les extraterrestres », où on nous dit, ben voilà, les Égyptiens, des gens basanés du nord de l'Afrique, étaient ben trop stupides pour construire des pyramides, donc il leur fallait obligatoirement ou des extraterrestres ou des blancs européens, hein, genre grecs ou romains, des survivants de l'Atlantide pour construire des monuments comme ceux-là, parce que ces gens-là étaient primitif. On a eu une longue tendance à faire ça et malheureusement, c'est une vision raciste. Oui. Non seulement c'est une vision raciste, mais on spoil ces grandes civilisations-là d'œuvres remarquables qu'ils ont fait. C'est un peu la même chose comme quand on regarde les civilisations du Mésoamérique, que ce soit les Aztèques, où si on descend davantage vers le sud avec les Incas, on voit la théorie des anciens astronautes qui nous dit, puis ayons pas peur des mots, les Indiens d'Amérique du Nord, ils étaient ben trop tata pour bâtir des trucs comme ça. Donc, s'ils n'ont pas eu l'aide des extraterrestres, c'est pas possible. Alors que la réalité est tout à fait différente. Ces sociétés-là étaient des sociétés très avancées, de véritables génies de l'architecture et de l'astronomie, et ils ont construit des cités qui étaient tout à fait magnifiques, puis ils n'ont pas eu besoin des extraterrestres, puis ils n'ont pas eu besoin des Blancs d'Amérique pour construire ça. Donc, mais il y a tout le temps eu cette espèce de fond raciste dans ces théories des anciens astronautes ou de cette présence indo-européenne en Amérique pour essayer de justifier certaines constructions qui sont remarquables. Alors que on n'a pas besoin de faire intervenir ni des Européens, ni non plus des extraterrestres pour expliquer comment les Premières Nations ont pu construire des choses qui sont tout à fait fabuleuses. Je pense par exemple à des monticules, des tertres qui ressemblent à des serpents ou des trucs comme ça que les peuples d'Amérique du Nord-Amérique ont construit, ou si tu as la chance d'aller en Arizona et de voir Palace Cliff, qui est un peuple, les Anasazis ont construit véritablement une cité en pierre à l'intérieur d'une falaise, dans une espèce de dépression naturelle de la roche. C'est tout à fait fabuleux. D'ailleurs, c'est un site qui est classé par l'UNESCO. Et non, ce n'est pas des extraterrestres qui ont construit ça. Donc, il y a toutes sortes d'éléments assez fantastiques comme ça, où on aime bien faire intervenir des Blancs européens pour montrer qu'on est supérieur. Mais en réalité...
C'est vouloir se placer dans la la photo, puis on dirait qu'il n'y a rien aussi d'anodin. Je comprends pas pourquoi ces blancs-là avaient le goût de regarder de haut puis de cracher sur d'autres techniques d'architecture aussi.
Oui, mais je pense, c'est parce que c'est un... C'est, ce qui m'étonne aujourd'hui, je vais être très honnête avec toi, puis je vais pas faire me lancer là-dedans. Un éditorial là-dessus. Mais... Tu sais, je pense que c'était dans l'air du temps qu'au 19e siècle, les Européens qui découvraient, par exemple, des grands monuments en Afrique ou des, qu'on pense, par exemple, à l'époque, en Rhodésie, quand on a découvert les ruines de Zimbabwe, c'était des briques, hein, ce qui nous montre que le peuple du Zimbabwe, aujourd'hui, à l'époque, ça s'appelait la Rhodésie, avait trouvé le moyen de fabriquer des briques en terre cuite et de construire des cités en pierre. C'était tout à fait fabuleux. Donc, on s'est dit, non, ça a dû être importé, des Européens ont dû venir ici, tout ça. Donc, qu'à l'époque, au 19e siècle, ou même au début du 20e siècle, qu'il y ait eu ce sentiment de racisme et de supériorité des peuples européens, c'était dans l'air du temps. Je suis pas pour, je suis pas contre, je défends pas ça, je dis que c'est une réalité. C'est l'histoire, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça, puis bon, on peut pas changer l'histoire. Mais de voir qu'aujourd'hui, en 2022, on est encore, certains sont encore à défendre ces théories excessivement racistes. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, là. Tu sais, je dis, oh, attends une minute, là. Je veux dire, tu connais l'expression, redonnons à César ce qui est à César.
Ben, c'est ça.
Je pense qu'il est grandement temps de redonner aux Égyptiens leurs pyramides, de redonner aux Mayas leur magnifique construction, du Yucatan, ou encore aux Incas leur fabuleuse construction, que ce soit le Machu Picchu ou Cusco ou autre. Pendant suffisamment de décennies, on les a volés, spoliés leur structure. Il est temps maintenant qu'on leur redonne, qu'ils aient droit de séance dans leur construction, dans leur cité, tu sais. C'est toujours un peu étonné de voir que des gens défendent encore ces théories un peu racistes. Mais néanmoins, donc, on nous avait parlé de ces Vikings dans l'estuaire du Saint-Laurent par Monsieur Martin, ce qui a été complètement détruit. Et ensuite, bien sûr, et je l'évoquais à quelques reprises, il y a eu cette histoire où on nous évoque souvent dans la malédiction de Rock Island, les Templiers, hein, les fabuleux Templiers qui viennent pour enterrer le Saint Graal, l'Arche d'Alliance à Monépit en Nouvelle-Écosse. Un petit aparté ici, ce qui m'étonne, c'est quand j'entends ces discours-là qui sont invraisemblables, mais stupides, là. Ayons pas peur des mots. C'est un peu comme si tu réunissais des gens autour d'une table et parmi eux, il y avait un spécialiste du sport et soudainement, autour de la table, un des convives disait « Ah oui, Guy Lafleur, il lançait pour les Expos de Montréal. » Ben, tu t'attends à ce que l'expert en histoire dise, en sport, se lève puis dise, excuse-moi, mais Guy Lafleur lançait pas pour les Expos de Montréal, il lançait pour les Padres. Non, il jouait au hockey, puis
oui.
Il jouait pour le Canadien de Montréal, puis il a aussi fait un passage chez les Nordiques de Québec et chez les Rangers de New York. Tu sais, tu t'attends à ce qu'on va rétablir les faits, là. Dans une émission comme La Malédiction d'Oak Island, il y a théoriquement un archéologue parmi eux, un type qui s'appelle Laird Niven, et à toutes les fois où j'entends ces gens-là nous sortir leur fable, leur stupidité à propos des Templiers, ben je me dis, comment ce gars-là, Laird Niven, qui est supposé être un archéologue, comment peut-il ne pas réagir en disant, les gars, vous êtes en train d'inventer des affaires,
c'est
là.
Ça.
Ou bien ce gars-là devait être le dernier de sa classe, ou bien il est payé pour fermer sa gueule. C'est pas possible, c'est d'une stupidité là, déconcertante. Mais bon, on reviendra là-dessus avec les Templiers parce que c'est un groupe qui est tout à fait fantastique et sur lequel on a beaucoup fantasmé. Et là, j'en arrive à notre histoire québécoise parce que le Québec a pas échappé non plus à toutes ces histoires-là.
Ah.
Et ma petite histoire, tu vois, moi, elle est quand même assez juteuse. Ça se passe en 1904. On fait des travaux d'aménagement pour construire l'église de Brampton en Estrie. Et là, au moment où on creuse, on va trouver deux pierres. En fait, c'est la même pierre qui a été fendue sur la longueur pour faire deux tablettes. Mais c'est une même pierre fendue. Et sur la partie plate, là où la fente s'est produite, donc on a une partie plate, les gens qui déterrent les pierres voient qu'il y a des symboles qui sont là, qui ressemblent à des W, des X ou des petites barres. C'est très curieux. Et comme on a deux pierres, évidemment, il y a le lien avec les tablettes sur lesquelles Dieu a gravé les 10 commandements qu'il avait remis à Moïse. Donc, ces pierres vont devenir les tablettes de Brompton. On n'arrive pas à savoir ce qui est écrit. On a clairement l'impression qu'il doit... parce que c'est des lignes assez droites. On a clairement l'impression qu'il doit s'agir d'une écriture. On n'arrive pas à la déchiffrer. Mais pendant un moment, les tablettes de Brompton vont attirer beaucoup de gens qui vont se déplacer pour les voir. Et puis, éventuellement, une fois la curiosité passée, un des villageois récupère les pierres et va les utiliser comme soutènement à son balcon. Donc, il les place en dessous des montants de son balcon, puis il construit son balcon par-dessus avec les marches.
Oh,
donc, pendant une dizaine d'années, les mystérieuses tablettes de Brompton vont servir de cale pour le balcon d'un des villageois. Et puis, à un moment donné, le curé entend parler, un nouveau curé arrive dans le village, entend parler de l'histoire, et là, il s'est dit, ben, je voudrais bien les voir, ces pierres-là, parce qu'il sent qu'il doit y avoir quelque chose de curieux là-dedans. Et on lui montre les pierres, il les fait enlever de l'endroit où elles se trouvent, sous le balcon de ce villageois, et il l'envoie au séminaire de Sherbrooke, où elles sont toujours. Donc, on a ces deux pierres-là. Et donc, pendant quelques années, les pierres vont rester là. C'est une curiosité. Et puis, à un moment donné, en 1966, on a le responsable du Centre d'études nordiques de l'Université Laval, à Sainte-Foy, un type qui s'appelle Thomas Lee, qui va se rendre au séminaire, il entend parler de l'histoire, se rend au séminaire de Sherbrooke et voit les deux pierres en question. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous passez par le séminaire de Sherbrooke, vous pouvez aller voir les deux pierres en question. Ce sont des pierres qui font à peu près 1 mètre de haut sur à peu près 45 cm de large et à peu près 15 cm d'épaisseur. C'est des assez grosses pierres. Donc, ce Thomas Lee de l'Université Laval entend parler de ces pierres-là, se rend là, voit ça. Il est lui aussi persuadé, comme ses prédécesseurs, qu'il doit s'agir d'une écriture, mais il n'arrive pas à la déchiffrer. Mais on lui permet quand même de faire un frottis des fameuses écritures en question. Donc, il place un papier sur les pierres et là, avec un crayon de plomb, il réussit à reproduire les symboles qui sont sur la pierre. Et là, il fait circuler ça dans le milieu des spécialistes en écriture ancienne, des pictogrammes, et il espère avoir une réponse. Donc, ça circule pendant quelques temps dans les milieux historiques, archéologiques, mais malheureusement, il n'y a absolument aucune réponse. Les années passent, et puis quelques années après, on est au début des années 70, notre Thomas Lee de l'Université Laval reçoit une lettre d'un certain Howard Barry Fell, un type de, pas le moindre, hein, de l'Université de Harvard au Massachusetts, qui lui dit, j'ai pu identifier l'écriture. Puis là, comme je te dis, hein, les années ont passé, là, on est rendu dans les années 70, Thomas Lee a un peu oublié cette histoire-là, donc il est un peu surpris de recevoir tant d'années après cette lettre.
Eh oui.
Et là, Barry Fell lui dit, j'ai planché là-dessus, j'ai pu déchiffrer l'écriture en question. Et non seulement j'ai pu déchiffrer, je sais de quoi il s'agit, mais j'ai réussi à déchiffrer le texte. Et là, ce qu'il dit, écoute, c'est pas la moindre patente, il dit que l'écriture sur les pierres, c'est de l'ancien alphabet phénicien. Attention, c'est un dialecte qui était parlé en Libye aux alentours de l'an 5000 avant Jésus-Christ. Donc, on est loin, là, 5000 ans avant Jésus-Christ, là.
Hey.
Et là, il dit, voilà, et là, le texte, j'en ai ici une traduction pour toi. Parce que j'imagine, tu lis pas l'ancien phénicien.
Non, donc, merci la traduction libre.
L'écriture dit, et selon la version de Barry Fair, il dit, expédition qui a traversé la mer au nom du roi Hiram pour conquérir le territoire, rapporté par Atta qui a atteint la frontière de la rivière. Il y a ancré son navire et gravé cette pierre. Anno, fils de Tamu, a atteint cette montagne. Donc, c'est un peu disparate comme texte, là, mais bon, c'est un peu ce que dit avoir traduit ce fameux Barry Fell. Et là, ça soulève évidemment beaucoup de questionnements. Dans un premier temps, est-ce qu'on a d'autres exemples de ce type d'écriture en Libye ou dans cette région du monde qui se rapprochent à ce qu'on a trouvé, alors que les lignes, quand on voit les pierres, on voit bien que ce sont simplement des lignes qui semblent faire des W ou des croix. Donc, un peu difficile d'imaginer un alphabet aussi élaboré pour arriver à un texte comme celui-là. Et ensuite, les historiens et les archéologues disent, c'est quand même aussi curieux parce que la première phrase, elle nous parle du roi Hiram. Dans un premier temps, il y a dans toute la littérature tous les textes anciens de cette région du monde, de la Libye en particulier, il n'y a aucune référence à un roi Hiram. Et qui plus est, le titre de roi n'existe pas en Libye.
Ah.
Donc, on n'aurait jamais défini quelqu'un comme étant le roi Hiram. Donc, on vient de donner un coup de pied, là, un peu, dans cette belle construction qu'avait proposé Barry Felt. Et finalement, après tant de controverses, en 1978, un géomorphologue de l'Université de Sherbrooke se rend au séminaire, regarde les pierres et établit, sans l'ombre d'un doute, que les marques sont des marques d'érosion tout à fait naturelles.
Et tout ça pour ça, wow!
Tant de controverses. Donc, et là, il explique que l'eau s'est infiltrée dans la pierre. Et au moment où il y a eu du gel et du dégel, ben la pierre a créé ces fameux symboles, ces espèces de lignes qui donnent l'impression d'une écriture qui ressemble à une écriture des anciens Celtes, une écriture qu'on appelait logam. Mais en réalité, c'est une pierre qui est tout à fait naturelle. Ce sont des marques qui sont tout à fait naturelles. Et évidemment, comme l'eau s'est infiltrée dans la pierre, c'est ce qui explique qu'elle se soit brisée de cette manière-là, donnant l'impression de deux tablettes qui ont été modifiées de manière artificielle. Alors qu'il s'agit tout simplement d'un phénomène d'érosion et dû à l'eau et les changements de température, glace eau, qui ont modifié la pierre. Donc non, les pierres de Sherbrooke, qu'on appelle encore les pierres vikings ou les pierres phéniciennes, hein, quand moi, pour les avoir vues à quelques reprises, je parlais avec le curateur qui lui a tendance à les appeler toujours les pierres phéniciennes. Ah, vous voulez filmer, voir les pierres phéniciennes, alors qu'il n'y a rien de phénicien là-dedans. C'est un truc tout à fait naturel. Mais l'étiquette est restée. Et il faut savoir, au-delà de cela, donc on a ces fameuses pierres phéniciennes au Québec, il faut savoir que si on descend le long de la côte est américaine, et en particulier en Nouvelle-Angleterre, là aussi on retrouve des constructions de pierres. Il y en a une notamment qui se trouve à North Salem, pas le Salem du Massachusetts où il y a eu les sorcières, mais
okay.
À North Salem qui se trouve au New Hampshire, on a des structures de pierre qu'on appelle America Stonehenge. C'est très pompeux d'avoir pris ce nom-là, mais encore une fois, quand on visite les lieux, c'est un lieu touristique, les gens visitent ça et on nous raconte toutes sortes d'histoires. Ça pourrait, des recherches archéologiques semblent dire que le site aurait été habité il y avait 4000 ans et là, on nous évoque encore la possibilité des Vikings, des Celtes ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, la présence, si le site a été occupé il y a 4000 ans, il faut savoir que quand on consulte la documentation archéologique, on découvre que les présences qui datent de 4000 ans, c'est la présence de peuples autochtones, de Premières Nations qui habitaient cet endroit-là. Les structures de pierre que l'on voit à America Stonehenge, non. Elles n'ont pas été érigées il y a 4000 ans, mais à peine 200 ans par des immigrants irlandais qui se sont installés dans la région. Donc, ils ont construit des espèces de tertres de roches comme ils en avaient dans leur pays. Et au départ, ça servait un peu de chambre froide pour placer différentes denrées. Et là, certains ont commencé à avoir là-dedans des relations avec le soleil, les solstices, les sous,
ouais.
Les ça. Et il y en a qui ont déplacé des pierres parce que dans les années 30, à partir du moment où le lieu est devenu assez touristique, il y a eu une mystification, c'est-à-dire qu'on a érigé de nouveaux tertres où on en a bougé, on a déplacé des pierres pour alimenter cette croyance-là que certaines pierres étaient alignées de manière à marquer la position du soleil au solstice ou aux équinoxes. Mais ça, ce sont des manipulations récentes. Le site de America Stonehenge, il est beau, il nous fait un peu rêver, mais il faut se rappeler que ce sont des constructions qui ont à peine deux siècles d'âge. Quant à la présence sur place, oui, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le contexte archéologique. C'est vrai qu'on a trouvé des bouts de charbon, des pointes de flèches, mais ça, c'était la présence des Premières Nations qui occupaient le site il y a des milliers d'années et non pas les constructeurs de ces fameux tertres de pierre qui, eux, sont beaucoup plus récents.
Christian, c'est toujours un plaisir de t'entendre.
J'allais simplement te dire en conclusion que jusqu'à maintenant, on n'a trouvé aucun élément qui permet de croire qu'il y a eu des contacts soutenus, hein, je le dis bien, je précise, des contacts soutenus entre des peuples européens ou indo-européens avec les sociétés ou les Premières Nations qui occupaient l'Amérique du Nord et qui occupent l'Amérique du Nord depuis à peu près 50 000 ans.
Avant l'arrivée de Christophe Colomb.
Avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492.
On déboulonne les mythes ensemble.
Oh oui, on déboulonne
merci.
Ça.
Un gros merci. Je regarde le temps. On est déjà sur l'autre émission. On prend ça demain.
Désolé.
Excuse-toi pas, c'est vraiment pas grave. Jean-Francis me dit, si ça arrive, laisse aller Christian, coupe-le pas, c'est trop intéressant. Fait qu'on a la bénédiction, mon cher.
Parfait, donc on se reparle demain.
À demain, bonne fin de soirée les autres.
Parfait,
temps.
Bonne
le
soirée à tout le monde.
Ciao. Bye.